Calade, ma radio.
Calade Jazz. Bienvenue dans Calade Jazz,
l'émission de tous les jazz.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Quelle est la Jazz. Je suis avec Julien. Bonjour Julien.
Bonjour.
Et surtout, bonne année. À vous tous, fidèles auditrices, auditeurs, que l'année 2026 commence avec sous les meilleurs auspices. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter.
Eh oui.
Alors aujourd'hui, nous allons commencer cette nouvelle année avec le violon dans le jazz. Parce que dans l'esprit de la plupart des gens, le violon n'apparaît pas comme un instrument historiquement fondateur ou faisant partie de la genèse de la musique du jazz. Et pourtant, on peut avancer au moins deux faits qui permettent de comprendre pourquoi, avant d'être un instrument soliste reconnu dans le jazz à partir des années 30, le violon est présent dans la quasi-totalité des orchestres de jazz depuis les années 1890 et jusqu'à la fin des années 20. Bien avant l'arrivée du jazz, au milieu du 19e siècle, le violon était déjà indissociable de la musique américaine et afro-américaine. Les cow-boys utilisaient le violon, qui pouvait même être rudimentaire, avec une guitare, une mandoline, un banjo, pour animer leur soirée et accompagner le square dance. Tu te souviens ?
Oui, je me souviens bien.
Et les esclaves noirs, quant à eux, étaient souvent chargés, après leur journée de travail dans les plantations, de distraire leur maître, voire d'animer leur bal en jouant du cakewalk, la musique de danse populaire qui va donner naissance au ragtime. Et l'instrument roi de ces musiques de danse était sans conteste le violon. Je continue l'explication après une petite pause musicale. Après un morceau que tu vas nous présenter avec un des premiers à véritablement créer un langage de violon jazz, hein, c'est Joe Venuti.
Oui, Joe Venuti, c'est on va dire le doyen des violonistes de jazz reconnus, on va dire, ouais, qui a inventé le violon jazz dans l'improvisation aussi. On va écouter un vieux morceau, du coup, vu qu'on parle d'un vieux monsieur.
Il est plus là, oui.
Oui, parce qu'il est né en 1902, je crois. Donc ouais, ça fait quand même un certain âge, hein. Il est décédé, ouais, même, bien sûr. C'est une version de Sweet Georgia Brown, donc c'est un morceau aussi qui date un petit peu. Alors je suis allé chercher, c'est un enregistrement qui date de 1971. Il joue avec des Italiens, il joue en Italie, ça s'appelle Live in Milan, et il joue avec un guitariste qui s'appelle Lino Pratuno. Donc, Sweet Georgia Brown avec Ben Bernie, Maceo Picard, Joe Venuti, bien sûr, et Lino Pratuno. C'est parti!
Ba 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 ba
Voilà, c'était Sweet Georgia Brown avec Joe Venuti. Je continue mes petites explications. Vers la fin du 19e siècle et jusqu'à la fin des années 10 au moins, il existait à Nouvelle-Orléans deux types d'orchestres. D'une part, les brass bands, orchestres à base de cuivre agrémentés de percussions, utilisés pour les parades, les défilés ou pour jouer de la musique légère à poste fixe. Et puis les orchestres à cordes, string bands, essentiellement dévolus à la danse. La progressive fusion de ces deux types d'orchestres et l'assimilation des styles de jeu des pianistes de ragtime et des chanteurs de blues va alors faire émerger une nouvelle musique syncopée qui prendra finalement le nom de jazz. Et lorsque la fusion des brass bands et des string bands fut actée, le violon s'est retrouvé, comme la guitare, cantonné au rôle d'accompagnement et non plus de soliste, à cause de son faible volume sonore.
Ah oui, ça et passait en dessous du coup.
Voilà, donc il faudra attendre les années 30 avec l'enregistrement électrique à partir de 1927, donc les microphones, pour qu'on ait à nouveau une place de soliste pour le violon. Et là, on va voir émerger effectivement de grandes personnalités qui vont populariser et qui vont installer de façon pérenne l'instrument, le violon, dans la musique de jazz. On a un autre exemple intéressant à suivre.
Ouais. Ouais. Donc on va
qui date de 1949.
49. Donc on va parler de d'un des plus grands jazzmen français, je pense. Donc on retraverse l'Atlantique. Parce que tu as des choses à dire ?
Non. Je vais juste présenter effectivement les deux interprètes qu'on va écouter. Vas-y.
Donc, on parle de Stéphane Grappelli, hein,
voilà,
bien entendu.
Avec
Django Reinhardt. Juste pour dire que je pense que sans Stéphane Grappelli, il n'y aurait pas de violon de jazz. C'est vraiment lui qui a inspiré la plupart après des violonistes jazz, que ce soit en France et dans le monde entier. Et on va écouter donc un standard que je crois qu'on a déjà passé, mais parce que c'est un standard qui est joué beaucoup de monde. How the Mind the Moon, oui, je pense, ouais. How High the Moon, donc interprété par le Quintet, c'est ça ? Du Hot Club ?
Oui, du Hot Club de France.
Voilà,
ouais.
Avec mon ami Django. Thank you.
c'était How High the Moon avec Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, qui était donc, je rappelle, membre du groupe de jazz manouche quintet du Hot Club de France, n'est-ce pas?
Je sais pas si on disait jazz manouche à cette époque-là, je suis même pas sûr, tu vois.
Tu crois que le terme manouche est venu un petit peu après?
Ouais, avant c'était du jazz, quoi. Alors je dis peut-être des bêtises. Je sais que moi, mes amis manouches aiment bien dire aussi jazz français.
Ah d'accord.
Ouais. Alors pourquoi? Faudra leur demander. Si un jour ils viennent nous voir.
Voilà, on espère. Alors avec quoi tu vas nous...
Ah je continue. Bah,
oui,
je continue avec des grands, un autre grand. Alors c'est vrai que je suis un peu allé chercher parce que j'étais pas un grand connaisseur du jazz. Et du coup j'ai trouvé un violoniste que toi aussi tu cites, c'est Stuff Smith, qui est un violoniste qui a un an de moins que Grappelli, donc c'est à peu près la même époque, donc un Américain. Hein. Donc un Américain, j'ai trouvé un enregistrement de lui où il enregistre sur une scène, c'est en live en Suède. Il est accompagné par Kenny Drew et Alex Riel et à la contrebasse Enna Chopé. Donc je n'irai pas plus loin, je n'irai pas son nom. Nils Aron... Voilà, Enna Chopé, très grand contrebassiste suédois. C'est un morceau qui s'appelle Bugle Call Blues. Ça a été enregistré, tout ça, en 1965.
C'était Bugle Call Blues de Stuff Smith, qui, je rappelle, a expérimenté l'amplification électrique. Et le violon va devenir un instrument solo dans le jazz, justement en grande partie aux efforts de Stuff Smith, on va y arriver, Stéphane Grappelli et Jovenuti. Alors, un autre exemple musical?
Alors du coup, vu que là, en plus, on était très saturé, ça tombe bien parce qu'on va vraiment aller dans le temps. Je vais vous parler de Jean-Luc Ponty. Donc Jean-Luc Ponty, c'est un violoniste français qui a obtenu une véritable réputation internationale, d'abord via ses collaborations avec Frank Zappa. Il a beaucoup joué avec Frank Zappa, aussi avec Doug McLaughlin. Puis à partir de, il a joué aussi avec Chick Corea, donc il a joué vraiment avec les musiciens plutôt de jazz rock. À la base, il a quand même une formation classique. Il a été très longtemps considéré comme un violoniste de jazz bebop, même très fidèle à Grappelli. Mais petit à petit, il s'est détaché de tout ça et il est allé plutôt vers le jazz rock et vers l'expérimentation du son. Alors c'est pour ça, c'est marrant, la Stuff Miss, on entendait presque, ça saturait presque son jeu de violon là, parce que comme tu disais, il s'était le premier à expérimenter le violon électrique. Et alors lui, il a continué à travailler ces sons de violon bien spécial. Donc vous allez voir, on va écouter un morceau qui s'appelle It's an, once enough.
Is once enough.
Vas-y, dis-le à ma place. Je suis nul en anglais.
Is once enough.
Voilà, merci. Ouais. Donc, c'est un morceau de Jean-Luc Ponty. C'est tiré de Aurora. C'est un album qui est sorti en 1976. Thank you.
Eh bien, c'était « Is Once Enough » de Jean-Luc Ponty. Sans entrer dans un classement de style, on peut dire qu'il existe quand même deux principales écoles de violon de jazz. L'école classique, qui privilégie la pureté du son et le lyrisme du discours, et l'école purement jazz, qui tente de traduire l'expression des instruments avant et de la voix. Alors, sans tomber dans la stigmatisation, on peut constater que globalement, les musiciens blancs, ayant pour la plupart une formation classique, mis à part Ponty par exemple, se trouvent plutôt dans la première catégorie, et les musiciens noirs se reconnaissent plutôt de la seconde esthétique. Voilà. Autre exemple musical, mon cher Julien.
On va parler encore d'un autre grand violoniste. On va beaucoup rester, en fait, j'ai fait le choix de plutôt rester sur les violonistes français parce qu'il y a une grande tradition dans cet instrument de jazz. Et le troisième grand violoniste français qui est malheureusement décédé il y a quelques années, c'est Didier Lockwood. Didier Lockwood, c'est pareil, c'est un peu comme Ponty, hein. Il touche à tout, hein. Autant du jazz manouche, il a fait aussi de la fusion, il a joué dans Magma, pour moi un des meilleurs groupes français qui n'ait jamais existé. Voilà, il a vraiment joué à tout. Et là, j'ai trouvé un petit album qui est sorti en 2015, si je ne dis pas de bêtises, où il fait, qui s'appelle The String Summit. Donc il y a plein d'invités et là j'ai trouvé un morceau où il joue avec Christian Escoudé, le guitariste avec qui il avait déjà joué dans un groupe. Donc voilà, qu'est-ce que je dis de plus? Pas plus que ça. Si je peux vous dire juste que le titre s'appelle Christ Wood parce que bien. Christian est Lockwood et que ce morceau prouve qu'on peut swinguer sans section rythmique. Thank you.
Voilà, c'était Chris Wood de Didier Lewood, tout simplement. Alors, je rappelle qu'au début des années 50, qui voit la fin du Hot Club de France, ce fameux quintet à cordes de Django Reinhardt, et la prédominance du bebop, on pense que la flamme du violon jazz est éteinte, mais pas du tout. Les braises seront bientôt attisées par une nouvelle vague de musiciens qui opteront souvent pour le violon électrique. De nouvelles stars vont émerger, Alan Silva, Laura Jenkins, Ornette Coleman, Jean-Luc Ponty, Didier Lewood, entre autres, Pierre Blanchard. Voilà, tout ça va nous amener à une femme, je crois.
Bah ouais, parce que c'est quand même de bon ton en ce moment, à notre époque, de parler de la gente féminine dans le jazz. Pour éviter qu'on se fasse taxer de non-inclusion. Donc je vais vous parler de Regina Carter. Regina Carter, donc c'était une violoniste de jazz qui a été beaucoup saluée par Branford Marcellus. Et nous allons écouter un morceau qui s'appelle Cook's Bay, c'est un titre de Kenny Barron et qui est interprété par Regina sur son troisième album qui s'appelle Rhythm of Hearts. C'est sorti sur le label Verve. Alors cet album marque sa volonté de ne pas laisser enfermer dans un seul style. Regina Carter explore une palette éclectique mêlant jazz traditionnel, funk, salsa, reggae et rythme africain, tout en restant fidèle à son identité de violoniste virtuose. Elle explique elle-même « Je ne voulais pas que cet album me mette dans une case, j'ai voulu y mettre tous les styles que j'aime. » Cook's Bay. Thank you.
ma radio.
Voilà, c'était Cook's Bay par Regina Carter. Nous sommes toujours dans votre émission Cala Jazz et nous parlons du violon dans le jazz, justement. Alors, Julien.
Ah, c'est encore à moi tout de suite.
Allez, vas-y.
Bon, du coup, je vais vous parler de Johan Renard. Johan Renard, c'est un violoniste que j'ai eu la chance de voir l'année dernière, là, à peu près à cette époque-là. C'était Henri Texier, le contrebassiste, qui l'avait invité pour une job, pas une job, mais pour un concert. J'ai vu ça au Triton. Au Lila à côté de Paris, c'était vachement bien. Du coup, je me dis, il faut que je cherche quelque chose à vous faire écouter de Johan Renard. Et Johan Renard, en fait, il a collaboré avec Francis Lockwood. Donc Francis Lockwood, il vient pas de très loin, c'est le frère de Didier Lockwood.
D'accord, je me disais, je connais ce nom.
Qui est pianiste. Alors je me disais, bah tu vois, ça matche bien du coup. Je voulais parler de Johan Renard. Et en plus, il a sorti un album. En fait, ils ont fait une tournée ensemble en hommage à Didier Lockwood. Et du coup, Francis a décidé d'enregistrer un album plus original avec des titres de sa composition avec Johan Renard parce qu'il appréciait beaucoup. Du coup, bah, j'ai trouvé un petit titre parce que je voulais faire actualité et j'ai trouvé un titre où ils invitent Baptiste Herbin, le fameux saxophoniste qu'on a pu voir à Farin en fin novembre où il jouait du Django Reinhardt. Donc on va écouter un morceau qui s'appelle Monkey in Autumn. Thank you.
c'était Monkey Newton avec Johan Renard. Et alors maintenant ?
Et maintenant ?
Je crois que tu vas nous proposer un groupe.
Ouais, alors c'est un. Ouais, c'est en termes de composition, c'est bien plus original que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Je vous parlais. Alors là, on va parler de jeunes violonistes hein, qui ont la quarantaine. Donc c'est pour ça que je vous parlais de violonistes français, parce qu'il y a vraiment une tradition aussi dans le jazz et la recherche de son. Et donc là, je vais vous parler de Clément Janinet, qui a créé un groupe qui s'appelle La Litanie des Cimes. C'est un super groupe avec de vraiment, vraiment, je vous conseille d'écouter les disques, ils sont très, très beaux. Et là, dans ce groupe, du coup, il invite Élodie Pasquier, qui fait des clarinettes, et un violoncelliste qui s'appelle Bruno Ducré. C'est une musique couverte aux quatre vents, une écriture délicate, régulièrement secouée d'énergie, friardante. Ah ouais, ça donne envie.
Ça promet.
Ouais. Alors, et oui, ça amène à contempler de vastes paysages imaginaires. Et ils aiment inviter, là en ce moment, ils invitent des artistes pour aller dans des pays différents. Et là, ils ont décidé d'inviter la chanteuse malienne qui s'appelle Madamba. Donc l'album s'appelle Ma Under the Repetitive Sky. Et le titre s'appelle Maningako. Et donc c'est la litanie des cimes. Je crois que c'est sorti cette année, donc c'est tout récent.
Maninga ko ni juka ko mio kenye be jamati.
C'était Maninga Kao, on dit comme ça, hein?
Maninga Kao,
de la litanie des cimes. Alors, effectivement, bien que le violon ait parfois été éclipsé par d'autres instruments dans le jazz, il connaît aujourd'hui une véritable renaissance. De nombreux jeunes violonistes talentueux explorent de nouvelles voies, comme on vient de l'entendre, et repoussent les limites de l'instrument. Ils s'inspirent des traditions du jazz tout en intégrant des éléments de la musique contemporaine, de la musique du monde et de l'électronique. Cette nouvelle génération de violonistes de jazz contribue à revitaliser le genre et à le rendre plus accessible à un public plus large.
Et ça, c'est bien vrai ce que tu dis. Et on va continuer un peu là-dessus. On va continuer par un autre violoniste, hein, qui est de la même génération que Clément Janinet, qui s'appelle Théo Secaldi. Donc, comme tu disais, je vais pas en dire plus parce que tu l'as très bien dit, hein. Donc, Théo Secaldi, je vais vous faire écouter un album où il est invité par Yom. Yom, c'est un musicien, un clarinettiste aussi, qui a beaucoup exploré tout ce qui est musique yiddish et musique slave. C'est même, on va dire, un peu en France, le spécialiste de cette musique-là. Et en fait, Théo Secaldi, il a un frère, et souvent on parle de la famille Secaldi.
Mais on les a vus, j'ai déjà vu plusieurs fois jouer, ils sont encore très jeunes.
Oui, ils sont jeunes, mais ils ont une quarantaine d'années. Hein,
même
maintenant.
Pas, même
si,
pas.
Je crois qu'il est de 86. Ouais. Ou non, c'est le frère, non, c'est Valentin qui est de 86. Ben, je ne sais pas, ils ont une quarantaine d'années, ouais. Et donc son frère, qui s'appelle Valentin, est violoncelliste. Donc Théo Secaldi au violon, Valentin au violoncelle, Yom à la clarinette. C'est un album qui s'appelle Le rythme du silence et on va écouter Angry Prayer. Thank you.
jusqu'à la dernière note. C'était Angry Prayer de Yom avec The Sicardi Brothers. Mais malheureusement, nous arrivons à la fin de notre émission.
Tout a une fin.
Eh oui. Merci, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Je rappelle que vous pouvez nous réécouter le dimanche à midi et le jeudi à 19h, en podcast sur le site radiocalade.fr, bien sûr. Nous vous souhaitons encore une très bonne année. Et nous allons nous quitter sur un dernier morceau, Julien.
Oui, on va se quitter avec Fiona Mombet, ou Mombet, je ne sais pas comment ça se prononce, M-O-N-B-E-T. Donc elle a été repérée très jeune par Didier Lockwood et la propulse dans le monde de l'improvisation et de la musique actuelle, où elle rencontre et collabore avec de nombreux artistes tels que Philippe Catherine, Marcel Azzola, Biril et Lagraine, Adrien Moignard ou encore Ibrahim Mahalouf. Alors son troisième opus, dont c'est un titre qu'on va écouter de son troisième opus, qui s'appelle Maelstrom, est initialement composé pour quartet de jazz et orchestre de chambre, et a été arrangé pour aussi orchestre symphonique. Et on va écouter un morceau, parce que c'est comme la nouvelle année, un morceau qui s'appelle Joy Song. Allez, à bientôt.
Allez, au revoir, à bientôt.